Voilà. Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices de Radio FM Espoir. Alors, comment allez-vous en ce matin, samedi matin? Comment allez-vous? Comment ça va? Je pense que vous allez bien. En tout cas, nous vous souhaitons un bon samedi, un bon week-end. Nous souhaitons que vous puissiez bien en profiter après ces 2 ans où on a été confinés, reconfinés, déconfinés, reconfinés. on a une certaine liberté maintenant. Profitez-en bien, sainement, autant que faire se peut. Alors, je rappelle, vous êtes sur les 97.3 MHz, c'est que, sachez que nous émettons, sur la commune de Basse-Pointe, c'est là que nous nous situons, tout au nord de la Martinique, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, nous sommes aussi sur le net, www.radiofmespoir.fr. Toujours, à toutes fins utiles, il y a aussi un numéro de téléphone à votre disposition qui est le 0596 52 64 17. On ne sait jamais, vous pouvez avoir besoin d'un renseignement, vous avez une difficulté, vous avez besoin d'une oreille, vous avez besoin qu'on vous écoute ou qu'on prie avec vous. Sachez qu'à ce numéro, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Je salue aussi les animateurs et animatrices de la radio, tout ce petit monde qui se donne, qui donne de leur temps, de leur énergie, pour qu'il y ait des émissions régulièrement et que chacun soit édifié. Vous savez que sur FM Espoir, il y en a pour tous les goûts, il n'y a pas que l'évangile, mais il y a tout sujet. Nous traitons tous les sujets possibles et imaginables. En tout cas, ceci pour votre progrès, pour votre avancement. On remercie aussi nos généreux donateurs qui se reconnaissent et qui permettent que la radio puisse continuer de fonctionner et honorer surtout ses dettes. Et donc merci à vous de donner de votre argent. C'est important de le souligner. Il n'y a rien qui fonctionne sans l'argent, bien évidemment. Dans le monde où nous vivons, il faut de l'argent. Et merci à ceux qui donnent. Il y a ceux qui donnent de leur temps, il y a ceux qui donnent de l'argent, il y a ceux qui donnent du matériel. Donc à toutes ces personnes, un grand merci. Un petit clin d'œil aussi au directeur de la radio, monsieur Daniel Surbon, qui certainement doit nous écouter. On souhaite qu'il profite aussi, comme tout le monde, de quelques jours de repos. Donc profite bien, puisque c'est un temps, il y a un temps pour chaque chose, c'est ça, il y a un temps pour chaque chose. Voilà donc, j'ai fait un petit tour et puis, vous savez, nous nous retrouvons chaque samedi pour cette émission Trésor des mots. Et j'aime à dire, qu'il y a des trésors dans les mots et souvent on ne se rend pas compte que, les mots ne sont pas que des mots, c'est pas que des lettres, les unes à la suite des autres. Il y a beaucoup plus dans le mot, il y a tout un contenu, il y a tout ce qu'on peut comprendre, il y a ce qu'on véhicule, il y a ce que l'autre va percevoir ou ressentir. Donc, il n'y a pas que la parole physique dans les mots, il y a ce que nous transmettons comme savoir, comme impression, comme émotion. C'est vraiment un trésor dans les mots. Et on sait aussi que les mots ont un impact sur notre cerveau et donc ce serait dommage que nous puissions pas utiliser les mots comme moyen de communication. Vous savez qu'aujourd'hui beaucoup de choses ont changé avec l'internet, SMS, WhatsApp, les réseaux sociaux, les gens écrivent beaucoup mais ne parlent pas, et il se trouve que une certaine génération va être en difficulté quant à la communication avec son prochain, son vis-à-vis, puisque si on ne parle pas, on ne fait qu'écrire, on aura forcément des difficultés à entrer en communication avec l'autre, en interaction avec l'autre, et ça va être très compliqué. Donc c'est bien d'écrire, mais c'est aussi bien de parler, parce qu'en fait le créateur, le s'est pas trompé quand il nous a donné, eh bien, la langue, il nous a donné un cerveau, il nous a donné un moyen de communication avec des organes, et donc, c'est que ça sert à quelque chose. Eh bien, sachez que vous êtes ce que vous dites. Et si vous pensez toujours négatif, vous n'allez voir que du négatif, parce que c'est tout ce que votre cerveau va retenir. Et si vous positivez, sans prêcher une pensée positive, eh bien, vous allez toujours voir le verre à moitié plein. Ceci dit, eh bien, ce matin, eh bien, nous allons parler, eh bien, de bois, nous allons parler de chèque, nous allons parler de désert. Je ne sais pas si ces mots vous évoquent quelque chose, si ça fait une petite lumière dans votre tête, on se dit, bon, de quoi on peut bien parler, de quelle expression on va partager ce matin. Eh bien, ce matin, eh bien, on va parler de chèque, on va parler de bois. Et pour certaines personnes, ils connaissent bien ce que ça veut dire. Ils ont vite fait la relation entre chèque et bois. Et voilà, tout le monde connaît cette expression, eh bien, chèque en bois. Et qui plus est, certaines personnes qui dirigent des entreprises, qui doivent faire un échange argent avec un objet. Et donc, ça arrive que, eh bien, on dise que le chèque soit en bois. Et alors, voilà, c'est assez courant, bien qu'on ne le pense pas, mais c'est assez courant que, eh bien, que certaines personnes payent avec, utilisent ce moyen de paiement, mais malheureusement, on dit en bois. Et quand on dit en bois, cela signifie, eh bien, tout le monde le sait, un chèque sans provision ou alors un faux chèque. Bon, on dira plutôt un chèque sans provision, des faux chèques, je sais pas, mais un chèque sans provision est communément appelé, eh bien, un chèque en bois. Alors, à l'époque des Gaulois, eh bien, le seul moyen de faire un chèque, eh bien, c'était de le graver sur de la pierre ou sur un morceau de bois. Et voilà la raison du bois. Pas imbécile, hein, pour un sesterce, hein, les Gaulois, à part Obélix, préféraient le bois, à la fois pour la facilité de transport et pour la plus grande précision du code barre. C'est un peu spécial quand même, hein, le chèque en bois, écrit sur du bois. Enfin, bon, il y avait, hein, il réfléchissait quand même, du bois, on est passé au papier. Et maintenant, du papier, on passe au virtuel. Il y a beaucoup d'évolutions. Mais comme les banques n'existaient pas à l'époque, à cette époque-là, eh bien, celui qui acceptait de se faire payer avec un chèque en bois, c'est-à-dire tout est écrit sur un morceau de bois, eh bien, était assuré de se faire gruger, c'est-à-dire de se faire tromper, vu qu'il était impossible de le faire virer sur un compte, évidemment, du bois. D'où l'expression. Alors, pas convaincu par cette explication, eh bien, comment peut-on ainsi douter? Bon, en réalité, il faut remonter aux locutions de bois. Donc, c'est ce petit mot-là, de bois. Pourquoi en bois et pourquoi de bois, qui date du 8e siècle, hein, et ça remonte à très loin. Hein. Et donc, en bois, qui date de 14e siècle, eh bien, cette locution servait à désigner des choses artificielles ou fausses, comme par exemple une jambe en bois ou bien un sabre de bois. Et évidemment, assez logiquement, puisque ce matériau était abondant et peu coûteux à l'époque et permettait, eh bien, aisément de fabriquer des imitations d'autres choses. Et donc, le bois était utilisé de façon très commune, hein, pour créer des instruments. Et voilà, hein, la notion de chèque en bois, une jambe de bois, et ça aussi je l'ai déjà entendu pour signifier que ce n'était pas la réalité, que c'était quelque chose d'artificiel. Alors c'est une de ces locutions qu'on trouvait au figuré dans visage de bois pour désigner la porte d'entrée restant désespérément fermée chez une personne qu'on était venu visiter et qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans quelque chose d'également très utilisé pour les fausses citations, hein, les personnes fausses. Je ne vais pas dire le mot, mais les personnes fausses, hein, et donc une personne de bois. Hein, cette locution est souvent utilisée à coller à un mot pour signifier bien le côté artificiel ou le côté négatif de la chose. Donc, chèque en bois désigne donc un faux chèque, un chèque artificiel, non pas en tant que bout de papier imprimé dans le local secret de la cave à côté des billets de 35 €, mais en tant que faux moyen de paiement, car le montant ne pourra jamais être touché, le compte débiteur n'étant pas assez alimenté. Voilà pour le fameux chèque en bois. Et tout ceci pour dire, eh bien, qu'à l'époque des Gaulois, eh bien, le papier, hein, n'était pas encore utilisé pour ce moyen de paiement. Et donc, les gens utilisaient un morceau de bois ou un autre chose pour, eh bien, signifier le chèque était en bois. Hein. Donc, le bois, c'était le support. Mais évidemment, les banques n'existaient pas encore. Donc, comment échanger ce morceau de bois contre de l'argent ou que sais-je? Donc, c'était carrément perdu d'avance, hein, joué d'avance, et donc d'où l'expression aujourd'hui lorsque quelqu'un vous donne un chèque et que quand vous le remettez à l'encaissement, et bien la banque vous le retourne et vous dit bon ben voilà, il n'y a rien sur le compte de la personne et on dit que le chèque il est en bois, donc impossible à encaisser, cette personne n'a pas suffisamment de provisions pour que ce chèque soit encaissé. Alors les gens qui font du commerce, eh bien, ont souvent affaire à des personnes pas très bien, qui n'hésitent pas à faire des chèques en bois tout en sachant que le chèque est en bois. Donc voilà, d'où l'expression chèque en bois, chèque sans provision, artificiel, où l'argent n'existe pas, il n'y aura pas de contrepartie. Voilà pour notre fameux chèque en bois. Et avant de faire un chèque, on vous le dit, hein, assurez-vous qu'il y ait suffisamment de provisions pour signer ce chèque, hein, évidemment. Hein. Je sais qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a eu affaire à ce genre de choses. Donc c'est pas très bien non plus. Mais voilà, l'expression du chèque en bois, ça date de très très loin, 8e siècle. C'est dire que c'est pas nouveau. Hein, tout comme l'homme reste l'homme. Et voilà, nous allons passer à une deuxième expression et les chrétiens, tous ceux qui écoutent Radio FM Espoir, qui font des messages, qui lisent la Bible, etc., vont reconnaître cette expression. En tout cas, ça va parler à bien d'entre vous. Alors, il s'agit de l'expression « prêcher dans le désert ». Et voilà, c'est ce que je disais, ça vous parle, ça. Quand je dis « prêcher dans le désert », systématiquement, pour les chrétiens, ils vont faire la relation avec Jean-Baptiste, hein, qui prêchait dans le désert. Alors, que peut vouloir dire exactement « prêcher dans le désert » Ça peut vouloir dire, eh bien, parler sans être écouté, parler dans le vide, parler à qui ne veut pas entendre, parler, par exemple, inutilement à des gens qui ne veulent pas se laisser convaincre. Et c'est plutôt ça. Alors, sans même en connaître l'origine, l'image est aussi claire que le ciel d'une nuit étoilée dans le désert. Et si on vous dépose au milieu du Sahara, eh bien, loin d'une zone habitée, et que vous vous mettez à haranguer les foules, hein, ben, il y a peu de chances que seuls les scorpions et d'autres animaux du désert, eh bien, présents sur des kilomètres à la ronde, vous prêtent une oreille attentive. Ce qui veut dire que, eh bien, dans le désert du Sahara, vous n'aurez pas âme qui vive, hein. Autrement dit, vous allez parler dans le vide et inutilement, puisque ces animaux du désert ne vont rien comprendre à ce que vous dites. Et votre message ne sera pas reçu, ni perçu, ni compris. Alors, l'expression date du 18e siècle et elle ne veut pas dire que l'individu qui parle n'a personne autour de lui, mais simplement que ce qu'il dit n'est pas entendu, compris ou pris en compte par l'auditoire. Donc, parler dans le désert ne veut pas dire qu'on est forcément dans le désert, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a personne pour nous écouter. Au contraire, il y a des gens qui sont là, qui sont censés écouter. Il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose avec les autres, mais finalement, eh bien, l'échange ne se fera pas, en tout cas, pas de manière positive. Alors, ceci est basé sur une double interprétation erronée. D'abord, dans la version des Septante de l'Ancien Testament, ça c'est pour les connaisseurs, à la Bible et les Évangiles, donc une version erronée des Septante de l'Ancien Testament, puis dans les Évangiles. Alors voilà, on apprend quelque chose. Alors au départ, il y a Isaïe, dont il est dit dans le texte original, une voix crie dans le désert, préparez la route de Yahweh, ou du Seigneur, ou de l'Éternel, comme vous voulez. Alors, Isaïe réclame en effet à son auditoire, donc il n'est pas dans un endroit désertique, puisqu'il parle à certaines personnes, donc il réclame en effet à son auditoire de préparer à travers le désert un chemin pour la Palestine. Et une erreur de transcription aurait fait sauter la ponctuation, et Isaïe est devenu, eh bien, une voix d'amant dans le désert. Donc on voit qu'à partir d'une ponctuation, ceci dit, hein, pour ceux qui sont très versés dans le français, la grammaire, l'orthographe, etc., les grands grecs, on va dire, un point, une virgule change le sens d'une phrase, et il semble qu'à un certain moment, eh bien, dans la transcription, hein, de cette partie du verset, que, eh bien, il y ait une virgule qui est sautée. Donc ensuite, dans les évangiles, eh bien, Jean-Baptiste, et c'est ce que je disais tout à l'heure, Jean-Baptiste qui parle effectivement dans un endroit désertique au bord du Jourdain, et donc celui-ci est bien comparé à cet Isaïe mal compris, mais en fait, Jean-Baptiste réussit à faire venir à lui tous ceux qui voulaient être immergés dans le Jourdain pour se faire baptiser. Donc, ceci dit, il est donc loin de parler dans le désert au sens de notre expression. Et donc, on en revient au fait que parler dans le désert ne signifie pas qu'on est dans le désert, mais peut-être plus précisément, eh bien, on parle à des gens qui ne veulent pas convaincre. Donc voilà, prêcher dans le désert, et c'est souvent, on se réfère à Jean-Baptiste, et on se réfère aussi à Isaïe, cette voix qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, et évidemment, comment entendons-ils? Hein, à qui parle-t-on, puisque s'il n'y a personne en est dans le désert, qui va préparer le chemin? Il faut bien qu'on parle à des gens qui sont supposés entendre et ensuite obéir et réaliser ce que demande, hein, soit Isaïe ou Jean-Baptiste. Donc ça ne signifie pas qu'on est dans le désert, mais plus précisément que l'auditoire, eh bien, n'est pas réceptif ou choisit de ne pas recevoir le message, et donc d'où cette expression, on parle dans le désert, donc on a l'impression de parler pour rien. Mais vous savez qu'en réalité, on ne parle jamais pour rien. Et comme je disais tout au début de l'émission, que les mots ne sont pas que des mots. Hein, et donc, à partir du moment où que quelqu'un parle, quelqu'un utilise des mots, un moyen de communication, vos oreilles entendent, votre cerveau enregistre, et c'est quand même là. Et donc, que vous obéissiez ou pas, c'est là, c'est enregistré en quelque part, et un jour ou l'autre, eh bien, ça va ressortir. Cette petite phrase que vous avez entendue, ou ce qu'on voulait vous dire et que vous ne vouliez pas recevoir, eh bien, ça va vous revenir en mémoire. Donc Jean-Baptiste, eh bien, quand il prêchait, eh bien, il y avait foule, il y avait du monde, et justement, il a quand même réussi à faire venir des foules au bord du Jourdain, des gens qui sont venus pour être baptisés. Donc lui, à ce moment-là, il n'a pas prêché dans le désert, puisque la parole a été entendue et qu'il y a eu du résultat. Donc voilà une expression qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, hein. Prêcher dans le désert, ça ne sert à rien. De toute façon, pas la peine d'aller dans le désert du Sahara pour prêcher, ça ne servira à rien puisqu'ici il n'y a personne pour écouter. Mais à le prendre dans un sens figuré, donc tout à fait l'opposé, on n'est pas forcément dans un désert, il y a du monde, mais le désert c'est au niveau de l'écoute et que les gens ne sont pas suffisamment intéressés ou ils sont pas réceptifs ou ne veulent pas entendre, et donc vous avez quelqu'un qui va s'égosiller à vouloir faire entendre raison à certains ou à prêcher l'évangile de toutes les manières possibles, alors qu'en face il va se trouver des personnes qui ne se laissent pas convaincre. C'est leur droit, hein, de ne pas se laisser convaincre, et donc l'orateur aura le sentiment, hein, de prêcher dans le désert. C'est surtout ça, hein, le côté, le sentiment de prêcher dans le désert. Il va ressentir quelque chose de très, il va sentir un vide, une certaine indifférence, au niveau des auditeurs, et ça c'est assez particulier, donc ça laisse la sensation, eh bien, de prêcher dans le désert. Voilà, en tout cas, moi, je sais que Radio FM Espoir ne prêche pas dans le désert, n'est-ce pas, hein, animateurs et animatrices, Daniel et tous ceux qui interviennent, et ils ne prêchent pas dans le désert. Parfois, ça arrive, hein, que, eh bien, telle émission, par exemple, telle manifestation ne rencontre pas forcément d'auditoire, ça arrive, hein, on a le sentiment de prêcher dans le désert, mais peut-être que, à notre niveau, c'est juste un sentiment et que ça ne l'est pas en réalité. Et puis c'est à partir du moment où la voix est partie, elle a été entendue, elle a été enregistrée en quelque part, c'est là, la petite voix, c'est là. Et un jour, ça va revenir, un peu comme Pierre. Hein. Jésus lui a dit, mais avant que le coq chante, tu ne m'auras renié trois fois, il ne se rappelait pas. Il a pris les choses à la légère. Peut-être Jésus a eu le sentiment aussi de prêcher dans le désert, hein. Et puis finalement, eh bien, lorsque c'est arrivé, lorsque le coq a chanté, il s'est dit, tiens, ouais, on me l'avait dit. On me l'avait dit, il s'est rappelé. Donc voilà, notre cerveau enregistre des choses et nous des choses insoupçonnées. On a l'impression que, mais ce n'est qu'une impression et ce n'est pas la réalité, d'où l'importance des mots, trésor des mots, choisir ces mots pour faire du bien autant que faire se peut. Hein. En tout cas, on sait que ici, eh bien, on ne prêche pas dans le désert, et merci à vous d'être, eh bien, d'être fidèle au rendez-vous, aux émissions. Vous avez toutes sortes d'émissions, eh bien, il y a tout public, hein, tout public, tout âge, et donc, nous ne sommes pas dans le désert et nous ne prêchons pas dans le désert. Et pour faire la petite conclusion, eh bien, nous revenons à notre fameux chèque en bois. Hein. Ne faites surtout pas ça. Hein. Assurez-vous dorénavant que lorsque vous signez votre chèque et que vous le remettez à la personne, eh bien, qu'il y a de quoi pour que cette personne soit payée. Et sachez que ce moyen de paiement, eh bien, existe depuis le 8e siècle. C'est dire, ça remonte à loin. Eh bien, à cette époque, il n'y avait pas de banque. Hein, hein. Et aussi, eh bien, le papier, eh bien, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, eh bien, c'était écrit sur quelque quelque chose, hein, comme une reconnaissance de dette, écrit sur quelque chose, sauf que, eh bien, quand c'était écrit sur un morceau de bois, ben, il n'y avait pas moyen, hein, qu'est-ce qu'on fait avec le bois? Il ne sert à rien. Donc, voilà, l'expression du chèque en bois est un chèque sans provision, un faux chèque, ou c'est un chèque artificiel, comme vous voulez, mais en tout cas, en posant ce fameux chèque en bois, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de flux financier. Donc, voilà. En tout cas, chers amis, je vous souhaite un très bon samedi sous le regard du Dieu vivant. Et je vous rappelle hein, que ben il y a encore d'autres émissions, et notamment Evelyse, tout à l'heure, dans son émission de prière. Alors, on vous dit de rester bien à l'écoute. Et puis, tout au long de la journée, eh bien, on travaille hein, pour que vous ayez des choses bonnes à écouter, à entendre, qui vous édifient, qui vous font progresser, qui vous font réfléchir, hein, qui vous font changer de voie. Et donc c'est là tout ce que nous vous souhaitons, chers amis auditeurs. Allez, je vous souhaite un bon samedi, bon week-end, profitez-en bien, et puis que Dieu vous bénisse. Amen.